brouillon de lecture. Brouillon de lecture, l'émission qui cherche à vous faire aimer la lecture, en vous présentant à chaque fois un nouveau livre. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Le mois précédent, nous avions lu les productions d'un atelier d'écriture.
Tout à fait, local, d'Aizouin.
Voilà, avec une consigne d'écriture un peu difficile.
Qui était de rédiger un texte sans la lettre A.
Sans la lettre A. Mais aujourd'hui, nous allons revenir à ce que nous faisions avant, à lire des extraits d'un roman. Alors, quel roman as-tu choisi ?
J'ai choisi un roman de Tracy, car elle est américaine. Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle.
Très bien. J'imagine qu'il s'agit du tableau de Vermeer.
Exactement. En général, cet auteur écrit des romans historiques.
Bien. Et je me souviens que sur le sujet, il y avait eu un film dans les années 2000, avec Scarlett Johansson dans le rôle de la jeune fille. Me trompais-je ?
Absolument pas.
Eh bien, Hervé, nous t'écoutons.
Oui, alors quelques mots sur l'auteur quand même avant. Donc Tracy Chevalier est américaine, mais vit à Londres depuis déjà plus de 3 décennies. Elle est plutôt spécialisée dans les romans historiques et La jeune fille à la perle, publiée aux éditions de la Table Ronde en 2000, a obtenu un succès international. Chapitre 1. Griette. Ma mère ne m'avait pas dit qu'ils allaient venir. Elle ne voulait pas que j'aie l'air inquiet, m'expliqua-t-elle plus tard. J'étais à la cuisine en train de hacher des légumes quand j'entendis des voix provenant de l'entrée. La voix d'une femme aussi étincelante que cuivre bien astiqué et celle d'un homme aussi dense et sombre que le bois de la table sur laquelle je travaillais. C'étaient là des voix comme nous n'en entendions pas souvent chez nous. Des voix rappelant de somptueux tapis, des livres, des perles, des fourrures. Heureusement que je m'étais donné tant de mal pour nettoyer l'entrée. La voix de ma mère se rapprochait de moi. Il se rendait à la cuisine. Je rangeais les poireaux que j'étais en train de couper, posais le couteau sur la table, m'essuyais les mains à mon tablier et pinçais mes lèvres pour les lisser. Ma mère apparut à l'entrée. Elle me décocha du regard une double mise en garde. La femme derrière elle dut rentrer la tête à cause de sa taille. Elle était plus grande que l'homme qui la suivait. Bien que la journée fût calme, on eût dit que la femme avait été prise dans une bourrasque. De sa coiffe de guingois s'échappaient de minuscules boucles blondes qui s'agitaient sur son front, telles des abeilles. Elle les chassa plusieurs fois avec impatience. Elle faisait mine de m'examiner sans parvenir à concentrer son attention, son regard voletant par toute la pièce. « C'est donc la fille ? » dit-elle d'un ton abrupt. « C'est Griette, ma fille, » répondit ma mère. Je saluai respectueusement l'homme et la femme. « Disons qu'elle n'est pas bien grande. Est-elle assez forte ?» Au moment où la femme se tournait vers l'homme, un pan de sa cape entraîna le couteau dont je venais de me servir. Il alla tournoyer sur le sol. La femme poussa un cri. « Katharina !» dit l'homme avec calme. Il prononça son nom comme s'il avait un morceau d'écorce de cannelle dans la bouche. La femme s'arrêta, faisant effort pour se dominer. Je m'approchai, ramassai le couteau, frottai la lame avant de le poser sur la table. Dans sa chute, le couteau avait déplacé les légumes, je remis en place un morceau de carotte. L'homme m'observait de ses yeux gris comme la mer. Son visage allongé, anguleux, reflétait la sérénité alors que celui de son épouse était aussi changeant que chandelle au vent. « Que faisiez-vous là, Griette ? » demanda-t-il. Sa question me surprit, mais je n'en laissais rien paraître. « Je coupais des légumes pour la soupe, monsieur. » J'avais l'habitude, en effet, de disposer les légumes en cercle par catégorie, comme les parts d'une tarte. Il y avait 5 parts, choux rouges, oignons, poireaux, carottes et navets. Je m'étais servi d'une lame de couteau pour délimiter chaque part et j'avais placé une rondelle de carottes au centre. L'homme tapota sur la table. « Est-ce dans cet ordre qu'ils iront dans la soupe ? » me demanda-t-il en étudiant le cercle. « Non, monsieur. » J'hésitais. Je n'aurais pu expliquer pour quelle raison je les avais arrangés de la sorte. Je vois que vous avez mis de côté les légumes blancs, reprit-il en montrant les navets et les oignons. Tiens, ceux de couleur orange ne voisinent pas avec ceux de couleur pourpre. Pourquoi ça ? Il ramassa une tranche de chou et un bout de carotte, les secoua dans sa main comme des dés. Je regardai ma mère. Elle hocha discrètement la tête. Les couleurs jurent parfois quand elles sont côte à côte, monsieur. Il fronça les sourcils. De toute évidence, il ne s'attendait pas à cette réponse. Dites-moi, vous passez beaucoup de temps à disposer les légumes avant de faire la soupe ? Oh non, monsieur ! Répondis-je confuse. Je ne voulais pas qu'il crût que je gaspillais mon temps. L'homme tourna légèrement la tête. Il laissa retomber les morceaux de carottes et de choux parmi leurs semblables. Le chou se retrouva en partie avec les oignons. J'aurais voulu tendre la main pour le remettre à sa place. Je me retins. Ce qu'il devina, il me mettait à l'épreuve. « Assez bavardé comme ça !» déclara la femme. Si agacée fut-elle par l'attention qu'il me portait, c'est moi qu'elle fustigea du regard. « Nous disons donc à demain ?» Elle se tourna vers l'homme avant de sortir majestueusement de la pièce, suivie par ma mère. L'homme jeta un dernier coup d'œil à ce qui devait être la soupe, puis il me salua de la tête et suivit les femmes. « Tu entreras demain à leur service. S'ils sont contents de toi, tu gagneras 8 florins par jour. Tu logeras chez eux. » Je gardai le silence. « Voyons, Griette, ne me regarde pas comme ça, » poursuivit ma mère. « Il le faut, maintenant que ton père a perdu son travail. » « Où habite-t-il ? » « À l'angle de la rue Molenporte. Tu veux dire le coin des papistes ? Ils sont catholiques. Tu pourras rentrer à la maison le dimanche. Ils y consentent. » Ma mère plaça ses mains autour des navets, la fit glisser, ramassant au passage une partie du chou et des oignons, puis elle laissa tomber le tout dans une marmite d'eau qui attendait sur le feu. Fini les belles parts de tarte que j'avais arrangées avec tant de soin. Je grimpai l'escalier pour aller trouver mon père. Il était assis sous les combles près de la fenêtre, la lumière effleurant son visage. Faute de mieux, c'était sa façon de voir maintenant. Mon père était artiste céramiste. Ses doigts étaient bleus à force de peindre Cupidon, damoiselle, soldat, bateau sur des carreaux blancs avant de les vernir, de les passer au four et de les vendre. Un jour, le four avait explosé, le privant et de ses yeux et de son commerce. Il avait eu de la chance, deux de ses compagnons étaient morts. « Je te demande pardon, Griette, j'aurais voulu me faire mieux pour toi. » On pouvait lire certaines tristesses à l'endroit où se trouvaient jadis ces paupières que le docteur avait à jamais cousues. « Mais c'est un homme honnête et bon, il te traitera bien. »« Comment pouvez-vous en être aussi sûr, père ? Vous le connaissez ? Ne sais-tu pas qui il est ? Non. Ne te rappelles-tu pas le tableau que nous avons vu il y a quelques années à l'hôtel de ville où Van Ruijven l'avait exposé après l'avoir acheté ? C'était une vue de Delphes, avec sa porte de Rotterdam. Le ciel y tenait une très grande place. Le soleil éclairait certains édifices et du sable avait été ajouté à la peinture pour donner un aspect rugueux à la brique et au toit. De grandes ombres s'étiraient sur le canal et de minuscules personnages s'activaient sur le rivage près de chez nous. Je m'en souvenais avec précision. Je me revoyais pensant au nombre de fois où je m'étais arrêté à cet endroit précis sans jamais voir Delphes avec les yeux de ce peintre. « Vous voulez dire que cet homme, c'était Van Ruijven ? Le mécène ?» Le père partit d'un petit rire. « mais non, mon enfant, ce n'était pas lui. C'était le peintre Vermeer. C'était Johannes Vermeer et son épouse. Tu es censé faire le ménage de son atelier. » Thank you.
colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. C'est grand pour la vie.
Le tableau « La jeune fille à la perle » existe réellement. Le peintre Johannes Vermeer, un peintre flamand, l'a peint en 1665. Après une restauration relativement récente dans les années 90, ce tableau, aussi dénommé « La Joconde du Nord », a été exposé dans le monde entier avant de revenir en 2014 dans un musée néerlandais spécialement restauré donc pour le tableau. Chapitre 2. La leçon de couleur. Où allez-vous, Griette ?
Chez l'apothicaire, monsieur. Madame me l'a demandé. C'est pour les enfants.
Pourriez-vous aussi me rapporter quelque chose ?
Bien sûr, monsieur.
Soudain, le vent ne sembla plus aussi agressif. Attendez, je vais vous l'écrire.
Il disparut, j'attendis.
Il reparut au bout d'un moment et me jeta une bourse en cuir.
« Donnez à l'apothicaire le papier qui est à l'intérieur et rapportez-moi ce qu'il vous donnera. »
La boutique de l'apothicaire était située près du marché au grain, vers la porte de Rotterdam. Ce n'était pas bien loin, mais l'air que je respirais semblait gelé en moi, tant et si bien que le temps que je pousse la porte de la boutique, je ne pouvais plus parler. Jamais je n'étais entré chez un apothicaire. Pas même avant de devenir servante, car ma mère préparait tous nos remèdes. La boutique était une petite pièce au mur couvert de haut en bas d'étagères. Sur celle-ci étaient rangées toutes sortes de fioles, de jattes, de récipients en terre cuite étiquetés avec soin. Même si j'avais pu lire leurs noms, je n'aurais sans doute pas eu l'idée de l'usage de leur contenu. Un tel froid tuait la plupart des odeurs, mais une odeur inconnue s'attardait. On aurait dit quelque pourriture enfouie sous un tapis de feuilles dans la forêt. L'apothicaire fut étonné de me voir. Rares étaient ceux qui s'aventuraient par un froid pareil. Assis à sa table, une balance près de son coude, il attendit que je parle. « Mon maître et ma maîtresse m'ont demandé d'aller vous trouver, haletais-je dès que ma gorge se fut assez réchauffée pour me permettre de parler. » Il parut quelque peu dérouté. « Les Vermeer, précisai-je. « Ah, comment va ton maître ?» Je lui tendis la bourse. Il la prit intrigué, mais en lisant la note, il hocha la tête. « Plus de noir animal ni d'ocre, murmura-t-il, on va aisément arranger ça. » Toutefois, jusqu'ici, il n'a jamais demandé à personne d'aller chercher les éléments nécessaires à ses couleurs. Il me regarda du coin de l'œil par-dessus le bout de papier. Il vient toujours les chercher lui-même. En voilà une surprise. Je ne dis rien. Asseyez-vous par ici, près du feu, le temps que je prépare tout ça. Il s'activa aussitôt, ouvrant des pots, posant des boutons de fleurs séchées, mesurant du sirop dans une fiole, empaquetant méticuleusement ceci, cela avec du papier et de la ficelle. Il mit certains articles dans la bourse en cuir, ajoutant les autres en vrac dans mon panier. « A-t-il besoin de toile ?» me demanda-t-il par-dessus son épaule, tandis qu'il replaçait une jarre sur une des étagères supérieures. « Je n'en ai pas la moindre idée, monsieur. Il m'a demandé de lui rapporter ce qui était écrit sur le papier. » « C'est très étonnant, vraiment très étonnant. » Il me regarda de la tête aux pieds. Je me redressai. Son attention me donna le désir d'être plus grande. Disons qu'il fait froid et qu'il ne sortirait que s'il pouvait faire autrement. Il me tendit les paquets, la bourse, et m'ouvrit la porte. Une fois dans la rue, je me retournai et le vis qui continuait à me regarder à travers une fenêtre minuscule dans la porte. De retour à la maison, j'allais d'abord donner à Katharina les paquets en vrac dans mon panier, puis je me précipitai dans l'escalier. Il était descendu et attendait. Je tirai la bourse, enfouis sous mon châle et la lui tendis. « Merci, Griette, » dit-il. Il commença à me demander d'autres services. Un jour, il me pria de passer acheter de l'huile de lin chez l'apothicaire à mon retour de la poissonnerie. Je devais la laisser au pied d'escalier pour ne pas le déranger, car il était avec le modèle. C'est de moins ce qu'il me dit. Peut-être se rendait-il compte que Maria Tince, Katharina, Taneke ou Cornelia seraient intriguées de me voir monter à l'atelier à un moment inhabituel. Ce n'était pas une maison où il était aisé de garder un secret. Une autre fois, il m'envoya demander au boucher une vessie de porc. Je ne compris la raison de sa requête que le jour où il me demanda de préparer chaque matin, lorsque j'aurais terminé le ménage, les peintures dont il aurait besoin plus tard. Ouvrant les tiroirs du bahut à côté de son chevalet, il me montra les peintures qui y étaient rangées et m'en donna les noms, Outre-mer, Vermillon, Massicot. Beaucoup de ces termes m'étaient inconnus. Les couleurs minérales tirant sur le brun et le jaune, le noir animal et le blanc de céruse, étaient conservés dans des petits pots en terre cuite, recouverts de parchemin afin de les empêcher de se dessécher. Les couleurs les plus précieuses, bleu, rouge et jaune, étaient conservées en petite quantité dans des vessies de porc. Un trou que rebouchait un petit clou permettait d'en exprimer la peinture. À matin, il rentra alors que je faisais le ménage. Il me demanda de remplacer la fille du boulanger qui lui servait habituellement de modèle, souffrante. « J'aimerais regarder un moment, expliqua-t-il. Quelqu'un doit se tenir à cet endroit. » Docile, je la remplaçais, une main posée sur l'anse de l'aiguillère, l'autre sur la fenêtre entrouverte, de sorte qu'un courant d'air glacial m'effleurait le visage et la poitrine. « Voilà peut-être pourquoi la fille du boulanger est malade, » pensais-je. Il avait ouvert tous les volets. Jamais la pièce ne m'avait paru aussi lumineuse. « Baissez votre menton, » dit-il, « et regardez en bas. » « Ne me regardez pas, moi. Oui, comme ça, ne bougez plus. » Il était assis à côté du chevalet. Il ne prit ni sa palette, ni son couteau, ni ses pinceaux, mais il resta là, les mains sur les genoux, à regarder. Je rougis. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il me fixerait avec une telle intensité. Je m'efforçais de penser à autre chose. Je suivis des yeux par la fenêtre un chaland sur le canal. L'homme qui le guidait était celui qui m'avait aidé à récupérer un broc tombé dans le canal lors de mon premier jour chez eux. Comme les choses avaient changé depuis ce matin-là. Dire qu'à l'époque je n'avais même pas vu un de ces tableaux et que maintenant je figurerais peut-être dans l'un d'eux. Je n'avais jamais assisté à la naissance d'un tableau. Je m'imaginais que l'artiste peignait ce qu'il voyait en se servant des couleurs qu'il voyait. Il me montra comment il faisait. Il commença le tableau par une couche de gris pâle sur la toile blanche qu'il parsema ensuite de taches roussâtres afin d'indiquer l'emplacement de la jeune femme, de la table, de l'aiguillère, de la fenêtre et de la carte. J'ai cru alors qu'il allait peindre ce qu'il voyait. Au lieu de ça, il se mit à peindre des taches de couleur, des taches noires pour la jupe, ocre pour le corselet et la carte sur le mur, rouge pour l'aiguillère et le bassin sur lequel elle était posée, grise pour le mur. Ce n'étaient pas les bonnes couleurs, aucune n'était celle de l'objet en question. Il passa un long moment à jouer avec ces « fausses couleurs », comme je les appelais. Il s'agissait de plages de couleurs qui ne représentaient rien, si longtemps que je les étudie. Je savais ce qu'elles étaient censées rendre pour la simple raison que c'était moi qui nettoyais ces objets. Je préparais les couleurs qu'il me demandait chaque matin. Une fois, j'y ajoutais du bleu. Il me dit alors « Pas d'outre-mer, Griette, juste les couleurs que je vous ai demandées. Pourquoi avez-vous sorti cette couleur alors que je ne vous l'avais pas demandée ?» Il était contrarié. « Pardonnez-moi, monsieur, c'est juste... » Je respirais à fond. Que la jeune femme porte une jupe bleue sur le tableau. J'aurais cru que vous voudriez mettre un peu de bleu plutôt que de la laisser noire. Quand je serai prêt, je vous le demanderai. J'acquiesçai et me remis à astiquer les têtes de lion sur la chaise. J'étais oppressé. Je ne voulais pas qu'il se mette en colère. Il ouvrit la fenêtre du milieu, refroidissant la pièce. « Venez ici, Griette !» Je posai mon chiffon sur l'appui de la fenêtre et allai vers lui. « Regardez dehors !» Je regardais, le ciel était couvert. Il soufflait un petit vent frais. Des nuages passaient derrière la tour de la nouvelle église. « De quelle couleur sont ces nuages ?»« Ils sont blancs, monsieur, bien sûr. » Il parut un peu étonné. « Vous trouvez ?» Je les regardais à nouveau. « Et gris aussi. Peut-être qu'il va neiger. » « Allons, Griette, vous avez de meilleurs yeux que ça. Pensez à vos légumes. »« Mes légumes, monsieur ?» Il remua légèrement la tête. Je l'agaçais, ma mâchoire se crispa. « Rappelez-vous comment vous les aviez mis, à part des légumes blancs. Vos navets et vos oignons sont-ils du même blanc ?» Je finis par comprendre. « Non, dans le navet, vous avez du vert et dans l'oignon, du jaune. C'est exact. Et maintenant ?» « De quelle couleur voyez-vous dans les nuages ?»« J'y vois du bleu, » répondis-je après les avoir étudiés quelques minutes, « et aussi du jaune, et même un peu de vert. » Je les montrais du doigt, excité que j'étais. Toute ma vie, j'avais vu des nuages, mais j'eus à cet instant l'impression de les découvrir. Il souriait. « Vous vous apercevrez qu'il n'y a que peu de vrais blancs dans les nuages, et pourtant on dit qu'ils sont blancs. « Alors, comprenez-vous pourquoi je n'ai pas besoin de bleu pour le moment ?»« Oui, monsieur. » Quand il finit par ajouter les couleurs au-dessus de ces fausses couleurs, je compris. Il passa un bleu pâle sur la jupe de la jeune femme et celui-ci se transforma en un bleu moucheté de noir que l'ombre de la table rendait plus foncé et qui s'éclaircissait près de la fenêtre. Au mur, il ajouta de l'ocre jaune laissant entrevoir du gris, le rendant lumineux mais non pas blanc. À la lumière du jour, je m'aperçus qu'il était composé de nombreuses couleurs. L'aiguillère et le bassin représentaient la partie la plus compliquée. Ils devinrent jaune, brun, vert et bleu. Ils réfléchissaient le motif du tapis, le corselet de la jeune femme, l'étoffe bleue drapée sur la chaise. Ils étaient tout sauf de leur véritable couleur argentée. Et pourtant, il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était bien une aiguillère et un bassin. Après cela, je ne pouvais m'empêcher d'ouvrir bien grand mes yeux.
these great fields are stretching, taking me oh so far. These great fields are stretching, van is stretching oh so far. This dryer is taking my girl, and it's so so hard. And I wish I had a melody, a songbird, and sing back.
Chapitre 3. La chambre noire. Le ménage de l'atelier était pour moi une évasion. Maria Tinse m'ouvrait la porte et restait parfois quelques minutes afin de voir où en était le tableau, comme il s'agissait d'un enfant malade qu'elle soignait. Sitôt qu'elle était partie, j'avais l'atelier à moi toute seule. Je commençais par regarder autour de moi en quête du moindre changement. Au début, les jours se succédaient sans que rien ne parût changer. Mais sitôt que mes yeux furent accoutumés aux détails de la pièce, je me mis à remarquer des détails tels que les pinceaux réarrangés au-dessus du bahut, un tiroir resté entrouvert, une chaise près de la porte qui avait été légèrement déplacée. Je veillais à ne pas déplacer quoi que ce fût, ajustant rapidement mon système de représentation afin d'épousseter cet endroit avec autant de dextérité et d'aisance que le reste de la pièce. Après m'être entraîné sur d'autres bouts de tissu, j'entrepris de nettoyer l'étoffe bleue sombre et le rideau jaune avec un chiffon humide, le pressant avec soin contre l'étoffe afin d'en absorber la poussière sans déranger les plis. Quant au tableau, j'avais beau ouvrir les yeux, rien ne semblait jamais changer, jusqu'au jour où je découvris qu'une perle avait été ajoutée au collier de la femme. Une autre fois, je remarquai que l'ombre du rideau jaune s'était agrandie. Il me sembla aussi que l'un ou l'autre doigt de la main droite avait été déplacé. La veste de satin jaune commençait à paraître si réelle que j'aurais voulu la toucher. Un matin, je suspendais la lessive dans la cour, secouant chaque pièce avant de l'accrocher sur la corde, quand Katharina apparut haletante. Elle s'assit près de la fenêtre, ferma les yeux et soupira. Je ne m'interrompis pas, feignant de trouver naturel qu'elle vînt s'asseoir auprès de moi, mais je sentis mon visage se crisper. « Sont-ils déjà montés ?» me demanda-t-elle soudain. « Qui ça, madame ?»« Eux, espèce de sotte ! Mon mari est... Allez voir s'ils sont là-haut » J'allais à pas feutrer dans le couloir. Deux paires de pieds gravissaient l'escalier. « Vous pouvez y arriver ?» entendis-je, monsieur demander. « Oui, bien sûr, vous savez, ce n'est pas bien lourd, » reprit un autre homme d'une voix caverneuse, « juste un peu encombrant. » Parvenus en haut de l'escalier, ils pénétrèrent dans l'atelier. J'entendis refermer la porte. « Sont-ils là-haut ? » siffla Katharina. « Ils sont dans l'atelier, madame, » répondis-je. « Parfait. Maintenant, aidez-moi. » Katharina me tendit la main. Je l'aidai à se relever. Je me disais que pour peu qu'elle grossisse encore, elle ne pourrait plus marcher. Elle avança dans le couloir tel un bateau aux voiles pleines, serrant bien fort son trousseau de clés pour qu'il ne tinte pas. Puis elle disparut dans la grande salle. Je demandai plus tard à Taneke pourquoi Katharina s'était esquivée. « Oh, parce que Van Leeuwenhoek était ici » gloussa-t-elle. « C'était un ami de notre maître. Elle a peur de lui ? Pourquoi ?» Taneke rit de plus belle. « Elle a cassé sa boîte. Elle a voulu regarder à l'intérieur et elle l'a fait tomber. Tu sais comme elle est maladroite. » Je revis le couteau de ma mère en train de tournoyer par terre. « Quelle boîte ? Il y a une boîte en bois dans laquelle on regarde et on voit des choses. »« Quelles choses ? Toutes sortes de choses !» répliqua Taneke avec impatience. La jeune maîtresse l'a cassée. Du coup, Van Leeuwenhoek ne veut plus la voir. Voilà pourquoi notre maître refuse de la laisser entrer dans l'atelier en son absence. Sans doute s'imagine-t-il qu'elle va faire tomber un de ses tableaux. Je découvris ce qu'était cette boîte le lendemain matin. En arrivant pour nettoyer l'atelier, je remarquai que le chevalet et le tabouret avaient été poussés sur le côté. Le bureau les avait remplacés. Une boîte en bois de la taille d'un coffre de rangement était posée au-dessus. Une autre boîte de plus petite dimension la prolongeait. Un objet rond en ressortait. Je n'avais pas l'idée de ce que c'était. Je n'osais pas y toucher. Je fis le ménage en lui jetant de temps en temps un coup d'œil, comme si j'allais soudain en trouver l'usage. Après avoir épousseté l'angle de la pièce, j'achevais le ménage. Je rangeais le débarras, je lavais le sol. Ayant terminé, je me plantai devant la boîte, les bras croisés, puis j'en fis le tour pour l'étudier. Je tournais le dos à la porte, mais je sentis tout à coup qu'il était là. J'hésitais. Valait-il mieux me retourner ou attendre qu'il m'adressât la parole ? Sans doute fit-il grincer la porte, car je me tournais alors tout naturellement et me retrouvais face à lui. Il était là, dans l'embrasure de la porte. Une longue robe noire recouvrait ses vêtements. Il me considérait avec curiosité, mais sans paraître s'inquiéter pour sa boîte. « Aimeriez-vous voir ce qu'il y a dedans ?» me demanda-t-il. C'était la première fois qu'il m'adressait la parole depuis qu'il m'avait questionné au sujet des légumes des semaines plus tôt. « Oui, monsieur, » répondis-je sans savoir ce à quoi je m'engageais. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ce qu'on appelle une chambre noire. » Ces mots ne voulaient rien dire pour moi. Je m'écartais et je regardais pousser un loquet puis soulever une partie du couvercle à charnière qu'il cala, laissant la boîte entrouverte. J'entrevis au-dessous une plaque de verre. Il se pencha, regarda dans le vide entre le couvercle et la boîte, puis il toucha la partie circulaire à l'extrémité de la plus petite boîte. Il se releva, regarda un instant le coin de la pièce que je venais de nettoyer avec tant de soin. Puis il tendit la main et ferma les volets de la fenêtre du milieu, de sorte que la pièce n'était plus éclairée que par la fenêtre située dans l'angle. Il retira alors sa robe noire. Mal à l'aise, je me balançai d'un pied sur l'autre. Il ôta son chapeau, le posa sur le tabouret près du chevalet, puis il se couvrit la tête de la robe noire et se pencha à nouveau au-dessus de la boîte. Je reculai d'un pas et jetai un coup d'œil vers la porte derrière moi. Il se leva, enfin, dégagea sa tête de la robe, laissant apparaître ses cheveux ébouriffés. « Tenez, Griette, c'est prêt. Allez-y, regardez. » Il recula et me fit signe d'approcher. Je restai cloué sur place. « Monsieur, couvrez-vous la tête avec la robe, comme je vous l'ai montré. L'image sera plus nette. » Je ne savais que faire. Je crus défaillir à l'idée de me retrouver enfoui sous sa robe, comme aveuglé, que lui serait là à m'observer. Mais il était mon maître, je lui devais obéissance. Je gardais le silence et m'approchai de la boîte, là où le couvercle avait été soulevé. Je me penchai pour regarder la plaque de verre laiteux fixée à l'intérieur. Un dessin très flou s'y reflétait. Il arrangea doucement sa robe sur ma tête de façon à empêcher toute lumière de passer. Je m'appuyai à la table pour me stabiliser et fermer les yeux un instant. J'avais l'impression d'avoir bu trop vite la chope de bière que je prenais le soir avant de me coucher. « Que voyez-vous » l'entendis-je me demander. J'ouvris les yeux et je vis le tableau sans la femme. « Oh !» Je me redressai si vivement que la robe tomba par terre. Je reculai, piétinant l'étoffe. Je retirai mon pied. « Pardon, monsieur, je laverai votre robe ce matin. » « Peu importe la robe, Griette. Qu'avez-vous vu ?» Ma gorge se serra. Je ne savais plus du tout où j'en étais. J'avais un peu peur. L'intérieur de la boîte était comme un piège du diable, ou je ne sais quelle invention catholique à laquelle je ne comprenais rien. « J'ai vu le tableau, monsieur, sauf qu'on n'y voyait pas la femme, qu'il est plus petit et que les objets sont renversés. » « Oui, l'image est projetée à l'envers, droite et gauche y sont également inversés. » Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais qu'y a-t-il ? « Je ne comprends pas, monsieur. Comment est-ce entré là-dedans ? » Il ramassa la robe, l'épousta du revers de la main. Il souriait. « Voyez-vous ceci ? » Il pointait le doigt vers l'objet circulaire à l'extrémité de la petite boîte. « On appelle ça un objectif. C'est un morceau de verre taillé d'une certaine façon. Lorsque la lumière provenant de ce décor le traverse et pénètre dans la boîte, elle projette l'image que nous voyons ici. » Il tapota le verre laiteux. Désireuse de comprendre, je le regardais avec une telle intensité que mes yeux s'embuèrent. « Qu'est-ce qu'une image, monsieur ? Ce n'est pas un mot que je connais. » Quelque chose changea dans son visage, comme si au lieu de regarder par-dessus mon épaule, c'était moi qu'il regardait. « C'est un tableau, une peinture, si vous voulez. » Je hochai la tête. Je voulais avant tout qu'il ait l'impression que je suivais ses explications. « Vous avez de très grands yeux, » me dit-il soudain. Je rougis. « C'est ce qu'on m'a dit, monsieur. Aimeriez-vous regarder à nouveau ?» Je n'y tenais pas, mais je n'osais pas lui dire. Je réfléchis un instant. « Je regarderai encore une fois, monsieur, mais à une condition que vous me laissiez seul. » Il parut étonné, puis amusé. « Très bien, » dit-il. Il me tendit la robe. « Je serai de retour d'ici quelques minutes et je frapperai avant d'entrer. » Je respirai bien à fond, puis je regardai dans la boîte. Je vis sur la plaque de verre une timide esquisse du décor dans l'angle. Tandis que je me couvrais la tête de la robe, l'image, pour reprendre le terme qu'il employait, devint de plus en plus nette. Je voyais la table, les chaises, le rideau jaune dans l'angle, le mur noir sur lequel était accrochée la carte, le pot en céramique miroitant sur la table. Ils étaient là, assemblés devant mes yeux, sur une surface plane, en un tableau qui n'était pas un tableau. Je touchais le verre avec précaution, lisse et froid. Il ne portait aucune trace de peinture. J'enlevai la robe, l'image devint floue. Néanmoins, elle était toujours là. Je repassai à nouveau la robe, veillant à ne pas laisser filtrer la lumière, et je vis réapparaître ses couleurs, véritables pierreries. Elles paraissaient encore plus brillantes et plus vives sur le verre que dans l'ambre de la pièce. Lorsque j'entendis frapper à la porte, j'eus tout juste le temps de me redresser et de laisser la robe retomber sur mes épaules avant qu'il n'entre. « Avez-vous regardé, Griette ? Avez-vous bien regardé ?»« J'ai regardé, monsieur, mais je ne sais pas trop ce que j'ai vu. »« Voilà qui surprend, n'est-ce pas ? J'étais aussi stupéfait que vous la première fois que mon ami me l'a montré. »« Mais pourquoi regardez-vous cela, monsieur, alors que vous pouvez regarder votre tableau ?» « Vous ne comprenez pas ?» Il tapota sur la boîte. « C'est un outil. Je m'en sers pour mieux voir. Cela m'aide à peindre. Mais vous vous servez de vos yeux pour voir. C'est exact, mais mes yeux ne voient pas toujours tout. » Je détournai vivement mon regard vers l'angle de la pièce, comme pour découvrir quelques détails inattendus jusque-là invisibles. « Dites-moi, Griette, poursuivit-il, croyez-vous que je peins juste ce qui se trouve là, dans ce coin ?» Je jetai un coup d'œil sur le tableau, incapable de répondre. Je me sentis piégé. Quelle que soit ma réponse, ce ne serait pas la bonne. « La chambre noire m'aide à voir de façon différente, expliqua-t-il. Elle m'aide à mieux voir ce qui est là. » Devant mon air déconcerté, il dut regretter d'en avoir dit autant à quelqu'un comme moi, une simple bonne. Il se retourna et referma la boîte. J'enlevai la robe et la lui tendis. « Monsieur, merci, Griette, dit-il en la prenant. Avez-vous achevé le ménage de l'atelier ? Oui, monsieur. Dans ce cas, vous pouvez vous en aller. Merci, monsieur. » Je me hâtai de rassembler le balai et chiffon et je sortis. La porte se referma derrière moi avec un déclic.
Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille, loin du château, dans le château de la. De haine cachée dans le jardin. moi je serrais les poings, je regardais danser Chen et son fiancé.
Tracy Chevalier a imaginé une histoire à propos de l'origine de ce tableau. Elle a inventé le personnage de Griette, héroïne et narratrice de ce roman, servante au service de maître Johannes Vermeer. Griette raconte qu'elle pourrait être cette jeune fille à la perle, alors que dans la vraie vie, cette jeune fille ne serait autre, paraît-il, que la propre fille de Vermeer. Allez, j'en ai fini de ma culture prout, continuons. Chapitre 4. La jeune fille à la perle. Nous étions en hiver au début de l'année 1666. Mon maître était là, debout dans l'atelier. Il regardait par la fenêtre. « Griette, asseyez-vous, je vous prie, » dit-il, me tournant le dos. Je m'assis sur la chaise qui était près d'un tableau sur lequel on apercevait un paysage sur la gauche et sur la droite. Une femme jouant du luth, vêtue d'une robe au décolleté généreux, un homme passant le bras autour de ses épaules et une femme âgée. L'homme achetait les faveurs de la jeune femme. La femme âgée tendait la main pour saisir la pièce de monnaie qu'il lui tendait. Ce tableau appartenait à Maria Tins. Elle m'avait dit un jour qu'il s'appelait l'entremetteuse. « Pas cette chaise !» Il rapprocha de son chevalet une des chaises aux têtes de lion, la plaça de côté, tournée vers la fenêtre. « Asseyez-vous ici !»« Que voulez-vous, monsieur ? » demandai-je une fois assise. J'étais intrigué, nous ne nous étions jamais assis l'un près de l'autre. Je tremblais, mais ce n'était pas de froid. « Ne dites rien !» Il ouvrit un volet afin de laisser le jour éclairer mon visage. « Regardez par la fenêtre !» Il s'assit sur son tabouret près du chevalet. « Maintenant, regardez-moi !» Je tournai la tête et le regardai par-dessus mon épaule droite. Ses yeux s'immobilisèrent dans les miens. Il semblait attendre quelque chose. Mon visage commença à refléter ma crainte de ne pouvoir le satisfaire. « Griette, reprit-il avec douceur. Il n'eut point besoin d'en dire davantage, mes yeux s'emplirent de larmes. Je les retins. Oui, ne bougez pas. Il allait peindre mon portrait. Il me tendit un livre, relié de cuir. Celui-ci avait le dos craquelé. Je l'ouvris au hasard. Étudiai une page, je ne reconnus aucun des mots. Il me demanda de m'asseoir, puis de me remettre debout, tenant le livre, les yeux tournés vers lui. Il reprit le livre, le remplaça par un pichet blanc au couvercle d'étain, et me dit de faire semblant de verser un verre de vin. Il me pria ensuite de rester là à regarder par la fenêtre, tout cela sans jamais se défaire de son air perplexe. « Les vêtements, c'est ça le problème » murmura-t-il. Je compris tout de suite. Il me faisait prendre des poses de dame alors que j'étais habillée en servante. Je pensais à la veste jaune, au corselet jaune et noir, et me demandais lequel des deux il me demanderait de passer. Au lieu de me séduire, cette perspective m'était mal à l'aise, non seulement parce qu'il me serait impossible de cacher à Katharina que je portais ses vêtements, mais à accomplir des gestes aussi peu familiers que tenir des livres m'embarrassait. Malgré toute mon envie de sentir la douce fourrure de la cape autour de mon cou, ce n'était pas ma façon habituelle de me vêtir. « Monsieur, finis-je par dire, vous devriez peut-être me demander de faire d'autres choses, le genre de choses que fait une servante. « Lesquelles, par exemple ? » demanda-t-il en levant les sourcils, les bras croisés. Je dus attendre que ma mâchoire cesse de trembler avant de pouvoir répondre. Ma gorge se serra. « Eh bien, coudre, balayer, passer la serpillière, aller chercher de l'eau, laver les draps, couper le pain, faire les vitres. Vous aimeriez que je vous représente avec votre balai ?» On aurait dit qu'il se parlait à lui-même. « Non, je n'aimerais pas que vous me peigniez avec mon balai, » dis-je, surprise par mes propres paroles. « Vous avez bien raison, Griette, je ne vous peindrai jamais un balai à la main. » « Poussez votre coiffe en arrière pour dégager votre visage, » me dit-il un autre jour. J'écartai de ma joue le bord de ma coiffe qui était de son côté. La pointe à mi-donnée m'érafla le cou. « Encore un peu, » dit-il, « je veux voir le contour de votre visage. » Après un instant d'hésitation, j'obéis, son regard descendit le long de ma joue. « Montrez-moi votre oreille. » Cela me contrariait, mais je n'avais pas le choix. Je glissai ma main sous ma coiffe, m'assurant que mes cheveux étaient bien en place, rentrant quelques mèches derrière mon oreille. Puis je tirai ma coiffe en arrière, révélant le bas de mon oreille. En dépit de son silence, son expression évoquait un soupir. Je surpris un frémissement dans ma gorge que je m'efforçais de réprimer. « Votre coiffe, dit-il, enlevez-la. » « Non, monsieur. Vous ne voulez pas retirer votre coiffe ?»« Non. Et pourtant, vous ne voulez pas que je vous représente en servante avec votre balai et votre coiffe, ni en dame vêtue de satin, de fourrure et frisée au fer ?» Je gardais le silence. Je ne pouvais pas lui montrer mes cheveux. Je n'étais pas le genre de fille à rester tête nue. Il remua sur sa chaise, puis il se leva. Je l'entendis entrer dans la réserve. Il en revint, les bras chargés d'étoffes, qu'il laissa tomber sur mes genoux. « Voyez ce que vous pourrez tirer de ça, Griette. Fabriquez-vous une coiffure avec un de ces bouts d'étoffes. Une coiffure qui ne vous donnera l'air ni d'une servante, ni d'une dame. » Il quitta l'atelier, fermant la porte derrière lui. Je ne savais que faire. Je laissais mon regard errer autour de moi comme si l'atelier recelait une réponse. Mes yeux tombèrent sur le tableau de l'entremetteuse. On y voyait la jeune femme tête nue, les cheveux retenus par des rubans, et la vieille femme qui, elle, avait entouré en l'entrecroisant une sorte de turban autour de sa tête. « Peut-être est-ce cela qu'il attend de moi, me dis-je. Peut-être est-ce ainsi que se coiffent les femmes qui ne sont ni des dames ni des servantes. » Je choisis une bande d'étoffe marron et l'emportai à la réserve où il y avait un miroir. J'enlevai ma coiffe et, prenant pour modèle la coiffure de la vieille femme du tableau, j'enveloppai ma tête de ce bandeau du mieux que je pus. J'avais curieuse allure. Quand il revint et vit mon accoutrement, il se mit à rire. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, » protestai-je. Il reprit son sérieux. « Vous avez raison, Griette, excusez-moi. « Votre visage, maintenant que j'en vois un peu plus, est si... Il s'interrompit. Fouillant dans toutes ses étoffes, il en sortit une bande longue et étroite d'étoffes bleues. « Je voudrais malgré tout que vous essayiez ceci. » Je regardai le tissu. Il ramassa un bout de tissu jaune bordé bleu et me le tendit. J'emportai à contre-cœur les étoffes dans la réserve et, debout devant le miroir, j'essayai de m'en faire une coiffure. Je nouai le tissu bleu sur mon front, puis j'enroulai le jaune plusieurs fois autour de mon crâne jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement couvert. Je rentrai l'extrémité sur le côté, j'arrangeai quelques plis, lissai la bande bleue sur mon front et retournai dans l'atelier. Je repris la même pose. Au moment où je tournais la tête pour regarder par-dessus mon épaule gauche, il leva les yeux. Au même instant, l'extrémité du tissu jaune se défit et tomba sur mon épaule. « Oh ! » murmurai-je, craignant que l'étoffe en glissant ne laissât voir mes cheveux. Elle resta en place. Seule l'extrémité de l'étoffe jaune pendait, mes cheveux restèrent cachés. « Bien, dit-il alors, c'est parfait, Griette, parfait. » Pourtant, il était malheureux. Il y avait près de 2 mois qu'il travaillait à mon portrait, et bien que je ne l'avais jamais vu, je l'imaginais presque terminé. Parfois, il restait juste à me contempler, comme s'il attendait quelque réaction de ma part. En ces moments-là, il était plus homme que peintre, et il m'était difficile de le regarder. Un jour, alors que j'étais assise sur ma chaise, il me dit soudain « Ce portrait satisfera Van Ruijven, mais pas moi. » Je ne sus que répondre. N'ayant pas vu le tableau, j'étais incapable de l'aider. « Me permettez-vous d'y jeter un coup d'œil, monsieur ?» Il me lança un regard étrange. « Peut-être puis-je vous aider ?» ajoutai-je, regrettant aussitôt mes paroles. Je craignis de m'être montré trop hardi. « Si vous voulez, » finit-il par répondre. Je me levai et me plaçai derrière lui. Il resta assis, immobile. J'entendais sa respiration lente et régulière. Ce tableau était différent de ses autres toiles. Seul y figurait ma tête et mes épaules, sans table, ni rideau, ni fenêtre, ni houppette, pour adoucir l'ensemble et disperser l'attention. Il m'avait représenté avec les grands yeux ouverts. La lumière tombait sur mon visage, en laissant le côté gauche dans l'ombre. Je portais du bleu, du jaune et du marron. Avec le bout d'étoffe autour de ma tête, je ne ressemblais plus, mais ressemblait à une autre Griette venue d'une autre ville et, qui sait, d'un autre pays. Il avait raison, il manquait quelque chose à ce tableau. Je compris avant lui ce qu'il manquait. Percevant ce qui faisait défaut, cette petite touche de lumière dont il s'était servi pour aguicher l'œil dans d'autres toiles. Je frissonnai, et ce sera la fin, me dis-je. Je ne me trompais pas. Mais cela lui prit plus longtemps que je n'aurais cru. Il fallut 2 séances de pause pour qu'il s'aperçoive de ce qui manquait. Il peignait avec un air insatisfait et me renvoyait rapidement. La réponse vint de Katharina. Un après-midi, Maertz et moi cirions les chaussures dans la buanderie, tandis que les autres filles, réunies dans la grande salle, regardaient leur mère se parer avant de se rendre à une fête donnée à l'occasion d'une naissance. Au petit cri de joie que poussèrent Alédis et Lisbeth, je compris que Katharina avait sorti ses perles. Elle était assise à sa table avec son poudrier, ses peignes et sa boîte à bijoux. Elle avait mis ses perles, sa robe en soie verte, modifiée de façon à cacher son ventre de femme enceinte. Je posai un verre près d'elle et lui servis à boire. « Voulez-vous aussi un verre de vin, monsieur ? » demandai-je en levant la tête. Il était adossé au bahut près du lit. Ses yeux allaient et venaient de moi à Katharina. Sur son visage, on retrouvait le regard du peintre. Il avait les yeux fixés sur la perle à l'oreille de son épouse. Tandis qu'elle tournait son visage pour se poudrer, la perle se balançait, jouant au gré de la lumière des fenêtres du levant. Elle miroitait comme les yeux de Katharina, nous incitant à regarder son visage. « Je dois descendre un moment, » dit-il à Katharina. « Cela ne me prendra pas longtemps. »« Ça y est, cette fois, me dis-je, il a sa réponse. » Cet après-midi-là, je montais sans hâte l'escalier, m'arrêtant à la porte de l'atelier. Ce ne serait pas comme les autres fois où j'avais posé pour lui. Il allait me demander quelque chose. Je poussai la porte. Assis devant son chapelet, il étudiait le bout de ses pinceaux. Lorsqu'il me regarda, je vis sur son visage une expression que je n'y avais encore jamais vue. Il était inquiet. C'est ce qui me donna le courage de parler ainsi. J'allais me placer près de ma chaise, la main reposant sur une des têtes de lion. « Monsieur, commençai-je en m'agrippant bien fort à la sculpture dure et inexpressive, je ne peux pas faire cela. »« Faire quoi, Griette ?» Son étonnement était sincère. « Ce que vous allez me demander de faire, je ne peux pas en porter. Une servante, ça ne porte pas de perles. »
Eh bien, merci Hervé. C'était donc La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier.
Tracy Chevalier.
Et en t'écoutant, je me demandais où se trouve ce fameux tableau de La jeune fille à la perle.
Alors, je l'ai dit au début, il est aux Pays-Bas, mais je ne sais pas dans quelle ville.
D'accord, parce qu'il me semble qu'au musée du Louvre à Paris, il y a très peu de Vermeer. J'ai le souvenir de la Dentelière. Et j'avais été d'ailleurs au Louvre. J'avais été d'ailleurs particulièrement surpris parce que je n'avais vu que des reproductions de ce tableau. Et quand on arrive dans cette salle au Louvre, là, le tableau, en fait, est minuscule.
Ils sont assez souvent petits, oui, avec des tas de détails. Oui. C'est passionnant de les regarder. Allez voir des tableaux flamands.
Absolument. Bien, alors, pendant qu'on est dans la lecture, je voudrais donner un petit conseil de lecture comme je l'ai fait la dernière fois. Voilà, j'ai relu cette semaine, je suis retombé dessus dans ma bibliothèque et j'ai eu envie de le relire, un livre de Yasmina Kadra qui s'appelle non pas Le Seigneur des Anneaux, mais Les Anneaux du Seigneur. Voilà. C'est un livre qui se passe en Algérie, dans un petit village perdu dans le Djebel. C'est au moment où il y a eu tout le fils et puis toute la guerre civile, une guerre civile, on peut appeler ça comme ça, en Algérie.
Et peut-être que tout à l'heure, tu vas me demander quel livre je vais lire la prochaine fois et je te répondrai peut-être, je lirai Les Anneaux du Seigneur de Yasmina Kadra.
Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est un livre particulièrement fort, comme tous les livres de Yasmina Kadra d'ailleurs. Et donc c'est l'histoire d'un petit village dans lequel il y a des tensions, des haines ancestrales et qui à un moment donné s'exprime avec le retour d'un enfant fanatisé.
Oh, il faut absolument le lire.
Et le village sombre dans le crime et l'horreur. Wow. Voilà. Bien.
Bonne nuit les petits.
Eh bien merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Nous reviendrons le mois prochain. Pour une nouvelle émission. Hervé, bien entendu, tu n'as aucune idée de ce que tu vas lire.
Eh bien si, Yasmina Kadra.
D'accord, volontiers. Ce sera avec plaisir.
Au revoir.
C'était Bouillon de Lecture. Au revoir à tous.